On va faire une présentation en trois parties hein, pour aborder la question de la guerre en Ukraine et plus largement de l'attitude des révolutionnaires face aux guerres. C'est peu de dire que nous sommes peu nombreux depuis un an hein, à défendre les positions que nous défendons à Lutte ouvrière. Et c'est pourtant une question fondamentale à nos yeux, autant pour le présent que pour l'avenir d'ailleurs. Je vais donc revenir sur la guerre actuellement en cours en Ukraine depuis un an. Puis mes camarades parleront successivement eh bien, de l'expérience passée des révolutionnaires par rapport aux guerres impérialistes, car c'est bien de ça qu'il s'agit, puis des positions qu'il nous semble vital de défendre aujourd'hui. Voilà. Alors, quand les troupes russes ont pénétré sur le territoire ukrainien en février 2022, et qu'elles ont tenté en vain d'aller jusqu'à Kiev pour renverser le gouvernement de Zelensky, les images qui tournaient en boucle et les commentaires des journalistes et des hommes politiques ne pouvaient que susciter l'émotion. Un petit pays était soudain envahi par son grand voisin russe avec un dictateur à sa tête, dont les commentateurs se demandaient s'il avait perdu le sens des réalités ou s'il rêvait de reconstituer un empire, ou les deux. Alors pourquoi donc deux pays, deux peuples ayant vécu en paix et en plus ou moins bonne entente pendant de longues années, se retrouvaient-ils soudain en guerre? D'autres explications sont venues après, mais elles se réduisent toutes à dénoncer les ambitions dites impérialistes de Poutine et elles visent toutes, surtout, à nous convaincre qu'il n'y a pas d'autre solution que de se ranger derrière l'Ukraine, le gouvernement Zelensky et ses alliés de l'OTAN, sous peine d'être complice du dictateur russe. Eh bien, cette façon de présenter les choses, selon nous, c'était et c'est toujours de la poudre aux yeux. Et aujourd'hui, tous ceux qui veulent bien regarder avec un minimum de recul et d'objectivité la situation peuvent voir que cette guerre, qui entraîne bien d'autres forces que les seuls Russes et Ukrainiens, a des causes profondes, qui ne datent pas d'hier d'ailleurs, et déjà des implications sur les relations internationales dans le monde entier. Ce conflit, il remonte au moins aux crises dites des révolutions oranges, qui ont eu lieu en 2004, puis en 2014. La Crimée a alors été annexée par la Russie, et en fait, la guerre a commencé à ce moment-là dans le Donbass, à l'est de l'Ukraine. Ces crises politiques, elles ont été présentées alors comme des affrontements entre des politiciens pro-russes et d'autres pro-occidentaux. Les impérialistes occidentaux, l'impérialisme américain en tête, suivi par ceux de l'Union européenne, en ont effectivement profité pour essayer d'arracher l'Ukraine à la sphère d'influence russe et la tirer dans leur orbite. Si l'on remonte encore un peu, c'est même depuis la chute de l'URSS en 1991 que l'impérialisme occidental essaye de soumettre l'Ukraine à sa domination économique et politique, comme il a pu le faire plus rapidement avec d'autres pays d'Europe de l'Est. Alors il n'y a vraiment pas de quoi s'en étonner, en tout cas quand on est révolutionnaire et qu'on se réclame du marxisme. L'impérialisme, il n'a pas attendu Poutine, il n'a pas attendu que Poutine déclenche des hostilités pour mener partout, absolument partout, une politique agressive, hein, puisque c'est un mot à la mode, en faveur de ses trusts et de ses profits. Il condamne même la majeure partie de l'humanité à la misère et aux guerres depuis plus d'un siècle. Alors bien sûr, Poutine aussi défend son précaré. Il essaye de préserver, il voudrait même étendre, pourquoi pas, l'influence de la Russie. Représentant de la bureaucratie russe qui a hérité d'un immense pays, avec des ressources considérables et des moyens construits à l'époque soviétique, il veut protéger les intérêts des bureaucrates qui contrôlent l'État et les grands trusts comme Gazprom et ces oligarques qui exportent les capitaux qu'ils ont volés vers des paradis fiscaux, qui s'achetaient des clubs, des villas et des yachts à Londres, sur la Côte d'Azur, et qui, paraît-il, depuis la guerre, achètent à Dubaï. Mais de là à reconstituer un empire comme du temps de l'URSS ou du temps du tsarisme, même si elle le voulait, la Russie d'aujourd'hui n'en a absolument pas les moyens. Et surtout, il faut être aveugle ou de mauvaise foi pour qualifier uniquement la politique de Poutine et sa guerre d'impérialiste en ignorant qu'en face, Derrière le gouvernement de Zelensky se trouvent les principaux pays impérialistes qui pillent la planète. Oui, cela mène aujourd'hui une guerre. Nos dirigeants aussi mènent une guerre impérialiste qui prolonge leur politique dans la région depuis 30 ans contre la Russie pour imposer leur domination en Ukraine. Et ils la mènent aujourd'hui avec la peau des Ukrainiens. Alors je voudrais dire que face à cette guerre, comme à toutes les autres, car il y a toujours des guerres quelque part dans le monde, dans ce système, les travailleurs ne peuvent faire confiance qu'à eux-mêmes, à leurs frères de classe. Et ils doivent remettre à l'ordre du jour les idées internationalistes du manifeste communiste qui, comme vous le savez, se concluait par ces mots « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ». L'internationalisme de classe, c'est pas comme on le présente trop souvent, un vague sentiment de solidarité entre les travailleurs des différents pays. Il est fondamental. Le capitalisme a commencé à mondialiser l'économie dès ses débuts. La bourgeoisie avait même commencé son ascension au sein de la société féodale en développant le commerce international avant d'amener le développement de la production à la même échelle avec ses trusts, ses multinationales. Mais bien sûr, elle l'a fait à sa manière, en ne cessant jamais d'être cette classe avide de profit, exploiteuse, qui a détruit toutes les vieilles structures du féodalisme et toutes les formes d'économie plus traditionnelles qui se trouvaient sur son passage. Le capitalisme a fait de la planète un tout où tous les pays sont interdépendants. Aucun pays ne peut se développer en vase clos à l'intérieur de ses frontières. Rien de plus tourné vers le passé, rien de plus réactionnaire que le maintien des frontières nationales et des États nationaux au service des capitalistes. La classe ouvrière, elle est née aussi avec le capitalisme et elle a tout de suite été une classe internationale. Les travailleurs ont été arrachés à leur foyer, à leur terre, à leur région d'origine pour travailler là où la bourgeoisie avait besoin d'eux. La classe ouvrière a toujours été en grande partie constituée de migrants. Ce qui fait qu'on est un travailleur, ce n'est ni l'origine, ni la couleur de peau, ni la culture ou la religion, c'est le fait de devoir travailler pour le patronat. C'est même cela, disait Marx, qui fait de la classe ouvrière la seule classe vraiment révolutionnaire de la société capitaliste. Les capitalistes l'ont privée de toute propriété, elle n'a que ses chaînes à perdre et un monde à gagner. C'est au nom de prétendues valeurs nationales qu'on somme les travailleurs d'accepter de se serrer la ceinture, de travailler plus longtemps, de se faire exploiter et en cas de guerre, de s'entretuer. Alors à la guerre impérialiste, la classe ouvrière, elle doit répondre par l'internationalisme prolétarien. La perspective du renversement du capitalisme en unissant ses luttes à l'échelle mondiale. Il n'y a pas d'autre façon d'en finir avec les guerres, ni même de sortir d'une guerre qui a commencé par le haut, sans que les conditions de la paix soient celles de la bourgeoisie, celles de l'impérialisme, sans qu'elles préparent d'emblée de nouveaux conflits à venir. Et nous devons nous demander en quoi la guerre devrait-elle nous faire renoncer à la perspective révolutionnaire. Aujourd'hui, il est évident que ce qui se passe en Ukraine dépasse largement un simple conflit régional. Les États-Unis et les membres de l'OTAN fournissent des armes au gouvernement de Zelensky, à la fois suffisamment pour que le conflit dure, mais pas encore assez pour qu'il s'étende au territoire russe autrement que de façon ponctuelle. Que les deux camps s'affaiblissent mutuellement, pour le moment, cela leur suffit largement. La Russie a été contenue et l'Ukraine est désormais tombée complètement dans la dépendance militaire, financière et économique des États impérialistes. Zelensky n'a pas eu d'autre choix que de se jeter dans leurs bras. À présent, ceux-ci soutiennent l'Ukraine d'une façon très intéressée pour mieux l'exploiter et la piller à outrance, pour piller ce qui restera de ce pays et de sa classe ouvrière demain. Les États-Unis sont déjà les principaux gagnants du conflit. Ils ne subissent même pas de dégâts économiques collatéraux, contrairement à de nombreux pays de l'Union européenne, jusqu'alors tributaires du gaz russe par exemple, de ses céréales, et pour certains pays de l'Est, de bien plus encore. Au contraire, les États-Unis, entre autres avantages, vendent désormais plus de gaz de schiste en Europe, et leurs marchands de canons et d'avions y ont d'ores et déjà décroché de nouveaux contrats. Car ce qui est spectaculaire depuis un an, eh bien, c'est la montée, la flambée généralisée du, même on peut dire, du militarisme. Non seulement l'OTAN connaît une nouvelle jeunesse, mais tous les États augmentent encore plus vite leur budget militaire de façon conséquente et ils préparent les esprits à de prochains conflits. Les plus hauts gradés parlent du retour de la guerre de haute intensité. Le secrétaire général de l'ONU lui-même a déclaré qu'on marchait à la guerre les yeux grands ouverts. Alors l'Ukraine, eh ben, c'est un pion dans cette affaire. Comme l'étaient les États des Balkans déchirés par les guerres impérialistes avant la Première Guerre mondiale. Comme la Tchécoslovaquie l'était devenue aussi avant la Deuxième. La liberté du peuple ukrainien, l'indépendance de l'Ukraine, le droit des nations, la défense de la démocratie, toutes ces fables n'ont pas grand-chose à voir avec ce qui se joue réellement là-bas. Et même si une partie des Ukrainiens veut et croit peut-être se battre pour la patrie, ils se battent, sinon pour leurs industriels, comme disait Anatole France, en tout cas pour des oligarques mafieux et à coup sûr pour les trusts et les banquiers occidentaux. Encore une fois, dire cela, selon certains, reviendrait à dire qu'on cautionne Poutine et sa politique. Mais non seulement nous ne sommes pas du côté de Poutine, mais j'ajouterais que nous sommes même les seuls à dénoncer, du point de vue de la classe ouvrière, et depuis bien longtemps, la complicité qui unit profondément son régime avec l'impérialisme, et cela malgré la guerre actuelle. Cette complicité, elle est elle-même plus ancienne que le régime de Poutine, d'ailleurs. Le stalinisme avait déjà inauguré cette politique en conduisant les partis communistes de défaite en trahison dans l'entre-deux-guerres, puis en s'alliant avec l'impérialisme français contre l'impérialisme allemand d'abord, en 1934, puis avec l'Allemagne de Hitler en 1939, dans l'espoir de le détourner de l'URSS. Enfin, l'URSS avait rallié le camp anglo-américain après avoir été attaqué par l'Allemagne en 1941. Et alors, à la fin de la guerre, main dans la main, ils avaient maintenu l'ordre dans l'est de l'Europe dévastée par la guerre, tandis qu'en Italie et en France, eh bien, ils remettaient la bourgeoisie en selle. Cette complicité fondamentale du stalinisme et de l'impérialisme contre la classe ouvrière a empêché pour une longue période historique de nouvelles révolutions. Et dans le monde entier, le stalinisme a même fait reculer la conscience de classe du prolétariat des décennies en arrière. Eh bien, Poutine en Russie, comme les oligarques ukrainiens d'ailleurs, qui ont dirigé le pays avant de pousser un Zelensky en avant, sont les dignes héritiers des bureaucrates staliniens du temps de l'URSS. Poutine, estimant qu'une guerre contre l'Occident, comme il dit, était inévitable, tôt ou tard, a choisi d'en prendre l'initiative en s'emparant d'une partie du territoire ukrainien. Mais n'oublions pas qu'à peine un mois plus tôt, en janvier 2022, ce même Poutine volait au secours du dictateur du Kazakhstan voisin, menacé par un soulèvement ouvrier. Aucun État occidental, aucun État impérialiste n'a alors protesté contre l'entrée des chars russes au Kazakhstan. Car là, en y sauvant le régime, Poutine préservait aussi les intérêts d'Exxon, de Total et d'autres, nombreux dans ce pays riche en matières premières. Alors ce que tous les brigands qui règnent dans le monde ont en commun, quelle que soit la forme de leur régime, c'est la crainte que les travailleurs se révoltent. Nous sommes contre Poutine, oui, mais pas pour des raisons de circonstance, parce qu'il est un ennemi des travailleurs. Et au même titre que nous sommes contre les dirigeants américains, britanniques, allemands ou français, c'est-à-dire nos propres dirigeants, et c'est cela que d'autres, ceux qui soutiennent la coalition des pays de l'OTAN derrière l'Ukraine, eux, oublient aujourd'hui. Et même à propos du régime ukrainien, il règne toute une hypocrisie. Après la fin de l'URSS, comme en Russie, les clans de la bureaucratie au pouvoir en Ukraine ont fait main basse sur les richesses du pays et engendré leurs oligarques, tandis que la population ukrainienne s'appauvrissait, à tel point que bien avant la guerre, chaque année, des centaines de milliers d'Ukrainiens s'en allaient chercher du travail en Russie d'un côté, à cause de la communauté de langue, ou en Europe de l'Est de l'autre, dans les trusts occidentaux. La prétendue démocratie ukrainienne était un simulacre. La corruption endémique est notoire. Les gouvernements qui jouaient sur la corde nationaliste cherchaient à interdire aux Ukrainiens de parler la langue russe, alors qu'elle était pratiquée partout, notamment dans la classe ouvrière. Ils n'y étaient pas parvenus, mais ils n'ont pas cessé d'exercer une pression de plus en plus forte. Quant aux minorités de langue hongroise ou roumaine ou autres, elles en étaient les premières victimes. Alors de qui se moquent ceux qui parlent depuis le début de la guerre de liberté de l'Ukraine ? L'Ukraine armée par l'OTAN est devenue un quasi-protectorat de l'impérialisme, entièrement sous perfusion, et elle le sera encore plus demain, au moins en partie en ruine et avec sa population fortement réduite. Les mesures autoritaires prises à l'occasion de la guerre, la corruption, l'oppression des minorités nationales, l'exploitation féroce de la classe ouvrière, la misère, rien de tout cela n'aura disparu. Et en plus, la guerre creuse le fossé de sang et de haine entre les populations ukrainiennes et russes, pourtant hier encore véritablement sœurs. Et c'est cela, la guerre d'indépendance pour laquelle on voudrait que les travailleurs se sacrifient ? Alors non, nous ne sommes pas d'accord. Le visage de la guerre en Ukraine, malgré les drones et les satellites, c'est encore celui des guerres du passé, avec les bombardements massifs de villes entières, les combats presque au corps à corps, y compris les tranchées. Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, je l'ai déjà dit, mais j'insiste, la guerre n'a jamais cessé sur les continents asiatiques, africains, sud-américains. Elle a ravagé l'ex-Yougoslavie dans les années 1990, mais à cette exception près, elle était longtemps restée éloignée de l'Europe. Alors c'est sans doute pourquoi on peut avoir du mal à croire qu'elle pourrait y revenir, s'étendre et nous toucher aussi. Mais comme le disait Rosa Luxembourg en 1915, la seule alternative qui reste devant nous, c'est socialisme ou barbarie. Alors, voilà. Alors pour nous parler maintenant des expériences passées du mouvement ouvrier face aux deux guerres mondiales, je passe maintenant la parole à ma camarade.
Alors, on nous raconte aujourd'hui, le camarade l'a dit juste avant moi, que la guerre en Ukraine, de l'Ukraine contre la Russie, est une guerre défensive, dans la mesure où la Russie a envahi le pays en février 2022. Évidemment, il s'agit par là de dire que cette guerre est légitime. Elle est présentée comme la guerre, comme la lutte de David, l'Ukraine, contre le géant Goliath, la Russie. Un petit pays attaqué par son puissant voisin, on ne peut être que du côté du plus faible. Ce n'est pas la première fois que de tels arguments sont utilisés. En fait, ils ont déjà servi de très nombreuses fois, presque à chaque guerre, et en particulier au moment du déclenchement des deux guerres mondiales qui ont ensanglanté le XXe siècle. La bourgeoisie a besoin de la classe ouvrière pour en faire sa chair à profit en temps de paix et pour servir de chair à canon en temps de guerre. Pour entraîner des prolétaires qui n'ont rien à gagner dans la guerre, à prendre les armes contre d'autres travailleurs, il faut une propagande intensive, d'un côté comme de l'autre. Il faut faire croire à ces travailleurs qu'ils se battront pour une cause juste, qu'ils vont défendre leur famille, leur maison, leurs proches, et qu'ils n'ont pas le choix. En 1914, l'assassinat de l'héritier du trône d'Autriche-Hongrie par un nationaliste serbe servit de prétexte au déclenchement de la guerre. La France et la Grande-Bretagne prétendirent entrer en guerre pour défendre la petite Serbie attaquée par l'Autriche-Hongrie. Voler au secours d'un peuple pour sa liberté, alors que ces mêmes puissances écrasaient sous leur domination des millions de personnes dans leurs empires coloniaux, quelle hypocrisie ! Quant à l'Autriche-Hongrie, soutenue par l'Allemagne, elle prétendait avoir été agressée par les Serbes à travers l'attentat de Sarajevo. Alors, qui avait raison ? Eh bien, se laisser entraîner dans ce genre de raisonnement, c'est une impasse. La guerre a des racines bien plus profondes qu'un accident, que tel ou tel événement particulier qui, à lui seul, pourrait changer le cours de l'histoire. Les militants socialistes révolutionnaires comme Lénine et Rosa Luxembourg dénonçaient déjà à la fin du XIXe siècle l'absurdité de distinguer les guerres défensives et les guerres offensives. Bien plus important était de savoir quelle classe mène telle ou telle guerre et dans quel but. les révolutionnaires ne sont pas des adversaires de toute guerre. Marx lui-même, quelques décennies plus tôt, avait parfois pris parti dans des guerres qu'il jugeait progressistes, opposant la bourgeoisie aux vieilles classes féodales. Mais à la fin du XIXe siècle, on n'en était plus là. Le développement du capitalisme, son extension à l'ensemble de la planète et sa transformation en un véritable système impérialiste où la bourgeoisie impose sa domination, changeait aussi le caractère de la plupart des guerres. La concentration du capital industriel, financier et commercial aggravait en effet toutes les contradictions du capitalisme. La guerre économique entre puissances impérialistes devenait de plus en plus féroce. Les dernières arrivées où le capitalisme s'était développé plus tard, comme en Allemagne par exemple, n'avaient pas de colonies pour exporter leurs capitaux. L'Angleterre, la France et quelques autres avaient déjà constitué leurs empires coloniaux. Les rivalités économiques entre puissances impérialistes devaient inévitablement se transformer tôt ou tard en guerre tout court. Les partis socialistes de la Seconde Internationale ont expliqué tout cela à l'époque. Dans leur propagande, ils dénonçaient le lien organique inséparable de l'impérialisme, du militarisme croissant et du conflit mondial qui s'annonçait. Les capitalistes voulaient s'affronter, les uns pour conquérir de nouveaux débouchés et les autres pour conserver leur empire. Mais les travailleurs n'avaient aucun intérêt à prendre parti. La Seconde Internationale affirmait qu'elle s'opposerait à la guerre par tous les moyens et dans ses congrès, elle proclamait sa confiance dans la classe ouvrière et l'internationalisme prolétarien. Pourtant, lorsque la guerre éclata à l'été 1914, ces partis s'effondrèrent. La quasi-totalité des dirigeants socialistes trahirent leurs idées internationalistes et reprirent en cœur la propagande de leur gouvernement. Les socialistes français, comme Jouot, le secrétaire de la CGT, ou Jules Guesde, qui se prétendait pourtant marxiste, affirmèrent que la France devait se défendre et se battre, non pas contre les soldats allemands, mais contre l'impérialisme allemand. Et qu'en se défendant contre l'ennemi, ils protégeaient ainsi l'héritage révolutionnaire de la France. Les dirigeants socialistes allemands, autrichiens, anglais et autres adoptèrent la même attitude de soumission envers leur bourgeoisie. En vertu de quoi, certains, notamment en France, entrèrent dans le gouvernement d'Union nationale et contribuèrent à la mobilisation de la classe ouvrière sous l'uniforme et sous le drapeau tricolore. À travers cette épreuve, on s'aperçut que les proclamations de solidarité internationale n'avaient été que des mots creux pour ces dirigeants. Ils s'étaient en fait intégrés plus ou moins consciemment à la société bourgeoise. Ils y avaient trouvé une place. L'impérialisme avait donné l'illusion aux partis ouvriers des pays capitalistes et aux syndicats que finalement un certain progrès était possible sans renverser la bourgeoisie. L'illusion qu'on pourrait faire l'économie d'une révolution. Au sein même de l'international, les révolutionnaires avaient combattu pied à pied ces illusions. Mais la capitulation de la quasi-totalité des dirigeants socialistes face à la guerre en août 1914 montra que le mal était plus profond que ce que personne ne l'avait imaginé. La Seconde Internationale avait fait faillite et ses dirigeants étaient passés dans l'autre camp. Quelques partis résistèrent cependant à l'Union sacrée, comme le parti bolchévique ou le parti socialiste roumain. Mais en dehors de ces rares exceptions, les militants qui n'abdiquèrent pas leurs idées avec l'entrée en guerre se retrouvèrent dans un premier temps complètement isolés. Rosa Luxembourg, dans sa brochure « La crise de la social-démocratie », revient quelques mois après le début de la guerre sur cette faillite de l'international. Elle affirme que la question n'était pas de savoir si les socialistes auraient pu arrêter la guerre. Ils ne l'auraient pas pu, car la guerre n'est justement pas le fruit d'une volonté, mais celui du fonctionnement même du capitalisme. Mais, explique-t-elle, les dirigeants socialistes n'étaient absolument pas obligés d'abandonner les idées de la lutte de classe. Pire, ils l'ont fait de leur propre chef. Ils ont placé la défense nationale au-dessus de la lutte de classe, comme s'il fallait d'abord rétablir la paix pour construire ensuite le socialisme. Les militants socialistes ne pouvaient pas empêcher la guerre, mais ils auraient dû continuer à défendre les idées internationalistes. C'est ce que fit Karl Liebknecht, député social-démocrate allemand, en mai 1915, lorsqu'il distribua, seul, sur une place de Berlin, en uniforme, un tract qui s'intitulait « L'ennemi principal est dans notre propre pays ». Il y dénonce la diplomatie secrète qui voile aux ouvriers les véritables buts impérialistes de la guerre. Il affirme que pour parvenir à la paix et à une paix durable, les prolétaires de tous les pays doivent s'unir pour mettre à bas le capitalisme en commençant par leur propre gouvernement. Il explique, je le cite, « L'ennemi principal du peuple allemand est en Allemagne. L'impérialisme allemand, le parti de la guerre allemand, la diplomatie secrète allemande, c'est cet ennemi dans son propre pays qu'il s'agit pour le peuple allemand de combattre dans une lutte politique en collaboration avec le prolétariat des autres pays dont la lutte est dirigée contre ses propres impérialistes. C'est une façon de réaffirmer une leçon fondamentale du mouvement ouvrier depuis 1848 et que les dirigeants socialistes avaient abandonné pour l'Union sacrée. La classe ouvrière doit être absolument indépendante politiquement de la bourgeoisie. Autrement, elle consent à se lier elle-même les mains. L'internationalisme et l'indépendance politique de la classe ouvrière furent au centre de la politique des bolcheviks pendant la Révolution russe, qui précipita d'ailleurs la fin de la guerre. Ils se distinguèrent d'ailleurs en cela des autres socialistes russes qui défendirent tous l'idée d'honorer les traités d'alliance que la Russie tsariste avait passés avec les bourgeoisies alliées. Pour les bolcheviks, la seule issue à la guerre impérialiste était que la classe ouvrière la transforme en guerre révolutionnaire, c'est-à-dire qu'elle retourne ses armes contre ses propres dirigeants dans chaque pays et qu'elle considère les soldats du camp d'en face comme les seuls alliés valables. Pour nous, comme pour les révolutionnaires de cette époque, toute la question peut se résumer ainsi. Quelle classe dirige la société et qui dirige la guerre ? Pour la classe ouvrière, ne pas diriger la société la condamne à servir les intérêts de la bourgeoisie. Lors de la Seconde Guerre mondiale, la question se posa de manière plus vive encore, car il s'agissait, selon le mythe qu'on nous enseigne encore aujourd'hui, de la lutte de la démocratie contre le fascisme. Comme la patrie, la démocratie n'est qu'un mot qui change de sens suivant celui qui l'emploie. Pour la bourgeoisie, la démocratie n'est valable que lorsqu'elle va dans le sens de ses intérêts. Aucun gouvernement dit démocratique ne protesta lorsqu'Hitler arriva au pouvoir en Allemagne en 1933. Au contraire, ils applaudirent à la mise au pas du mouvement ouvrier, aux assassinats de militants, aux camps pour les opposants politiques. Lorsque Franco tenta son coup d'État en Espagne en 1936, provoquant en réaction une révolution ouvrière, le gouvernement de Blum en France, pourtant républicain comme celui du Front populaire espagnol, se contenta de regarder les prolétaires espagnols se faire massacrer. Les gouvernements les plus démocratiques parquèrent dans des camps les réfugiés qui fuyaient les régimes fascistes. Ils instaurèrent par exemple des quotas de réfugiés juifs alors même que ceux-ci étaient exterminés par les nazis. Bien sûr, lorsque les travailleurs parlent de la défense de la démocratie, c'est tout autre chose. Les ouvriers français, américains, allemands, italiens, etc. avaient de bonnes raisons de vouloir combattre le nazisme. Mais il aurait fallu qu'ils prennent conscience que cette lutte ne pouvait aboutir que sous leur propre drapeau. C'est le sens que Trotsky a donné à son programme de transition, rédigé en 1938 à la veille de la guerre. Il y écrit que les différents arguments en faveur de la guerre se réduisent, je le cite, à dire que le sort des peuples doit rester entre les mains des impérialistes, de leur gouvernement, de leur diplomatie, de leurs états-majors. Eh bien, au contraire, le programme de transition met en avant des mots d'ordre dont le but est, à chaque fois que les travailleurs sont entraînés dans l'action, qu'ils exercent leur esprit critique, qu'ils s'organisent sur une base de classe, qu'ils se mettent à contrôler leurs dirigeants et la bourgeoisie, qu'ils prennent leur sort en main. Les ouvriers doivent réclamer le contrôle des comptes des industries de guerre, la levée des secrets diplomatiques, exiger une formation militaire sérieuse, puisque la bourgeoisie leur met des armes entre les mains, sous le contrôle de leurs propres représentants, sans être soumis à la censure militaire. Bref, la classe ouvrière doit défendre son indépendance politique et se préparer à prendre en main la direction de la société. Voilà le programme qu'un parti révolutionnaire se doit de défendre en toutes circonstances et en période de guerre plus que jamais. À la veille de la Deuxième Guerre mondiale, tous les dirigeants du mouvement ouvrier, les socialistes comme les communistes staliniens, se rallièrent à l'idée selon laquelle il fallait s'unir avec la bourgeoisie pour défendre la démocratie. Au nom de cette unité, les ouvriers espagnols furent priés de remettre leurs mains à la bourgeoisie républicaine, sonnant le glas de la Révolution espagnole de 1936. Au nom de cette unité, les militants du PCF se rangèrent en 1941 sous la bannière de De Gaulle, ce général anticommuniste. À la fin de la guerre, il fallut ensuite reconstruire le pays. Pour qui ? Pourquoi ? Le dévouement et le courage des militants ou des travailleurs qui pensaient œuvrer pour un monde meilleur en combattant le fascisme ou l'occupation étrangère furent détournés pour servir, en fin de compte, les intérêts de la bourgeoisie et le maintien de l'ordre impérialiste, préparant bien d'autres guerres, car la guerre n'a jamais cessé depuis. Alors aujourd'hui, toutes ces expériences du mouvement ouvrier doivent nous servir de leçon. Au moment où les tensions internationales sont exacerbées, où la guerre est déjà là en Ukraine, mais dans bien des pays dans le monde, les militants révolutionnaires doivent conserver leur boussole envers et contre tout et afficher bien haut la formule de Karl Liebknecht, l'ennemi principal est dans notre propre pays.
Lénine avait plusieurs fois défini le parti bolchévique, le sien, comme la mémoire de la classe ouvrière. Il est un fait que la classe ouvrière, dans tous les combats que lui livre la bourgeoisie et qu'elle a à livrer à la bourgeoisie, a besoin de se souvenir des expériences du passé. Alors, j'espère que vous n'aurez pas trouvé trop long le rappel que nous en avons fait à propos des situations de guerre et des positions que les révolutionnaires ont défendues et celles qu'ont renoncé à défendre certains partis socialistes ou communistes. Mais nous pensons que c'est d'autant plus nécessaire dans la période qui vient de rappeler ces choses. Car il ne suffit pas de rappeler, comme certains le font, que même si c'est profondément juste, que le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte l'orage, encore faut-il en tirer toutes les conclusions, toutes les conséquences qui s'imposent et ne pas oublier d'insister dans notre propagande contre la guerre sur la conclusion qui est qu'on ne pourra mettre un terme à la guerre et mettre un terme aux guerres que quand on aura renversé, quand la classe ouvrière aura renversé le capitalisme. Et ça, ça doit figurer dans notre propagande, surtout en ce moment, que l'on voit certains mouvements se dire anti-guerre, pacifistes, et expliquer qu'il faut reconstruire un mouvement anti-guerre. Là, j'ai un tract d'une organisation d'extrême gauche. Mais évidemment, malheureusement, ces organisations font l'impasse complètement sur la nécessité de renverser le capitalisme. Et c'est bien ça le principal. Alors, un siècle et quelques après les événements qui ont vu la Deuxième Internationale dans son immense majorité faire faillite face à la guerre en se ralliant à sa bourgeoisie, eh bien, on assiste à des pressions et un scénario du même ordre autour de la guerre en Ukraine, de la part de notre propre bourgeoisie, autour de la guerre que les états-majors politiques et militaires des puissances impérialistes préparent visiblement contre la Chine, en tous les cas, c'est ce qu'ils disent. Et on assiste aussi, malheureusement, au fait que, dans l'extrême gauche, eh bien, certains groupes ne défendent pas les positions qu'il serait nécessaire d'avoir face à la guerre actuelle en Ukraine et face à la guerre qui vient. Alors oui, nous, à Lutte ouvrière, avec nos camarades des autres sections de l'Union communiste internationaliste, nous sommes fiers des positions que nous avons défendues depuis le début de la guerre. Et nous avons affirmé que la guerre de Poutine, de Zelensky, et comme c'est apparu bien vite à pratiquement tout le monde, à moins d'être volontairement aveugle, la guerre de Biden, de Macron, n'était pas la guerre des travailleurs, n'était pas la nôtre, n'était pas la guerre, évidemment, des travailleurs ukrainiens et russes, ou russes, si vous voulez, qu'elle n'était pas non plus la guerre des travailleurs français, américains, allemands et autres. La seule guerre que les travailleurs ont à préparer et qu'ils auront à mener, c'est celle contre leurs exploiteurs, pour défendre leurs intérêts de classe, sans se laisser arrêter par des considérations de frontières ou de pseudo-considérations nationales, comme celles que l'on a vues fleurir pour justifier l'intervention de l'OTAN et de l'impérialisme derrière l'OTAN, derrière l'Ukraine. Alors, oui, il est important, comme la camarade l'a souligné, et je me fais un plaisir de le rappeler, de toujours avoir à l'esprit, quand nous examinons les situations comme celle d'aujourd'hui, d'avoir à l'esprit que l'ennemi principal, il est toujours dans notre propre pays, comme l'avait à juste titre affirmé, proclamé Karl Liebknecht durant la Première Guerre mondiale. Alors, je voudrais venir maintenant aux positions que nous défendons et avons défendues et celles qu'un certain nombre de groupes d'extrême gauche ont défendues et qui ne nous paraissent pas correctes. À la différence d'une partie de l'extrême gauche, nous n'avons pas refusé de voir quelle pression agressive l'impérialisme exerçait sur la Russie depuis 30 ans, et je dirais même depuis plus de 30 ans, sur l'Union soviétique, et comment il avait, petit à petit, sans arrêt, poussé ses pions et ses troupes, celles de l'OTAN, dans ce qui était auparavant la sphère d'influence soviétique. Nous n'avons pas pris pour argent comptant, comme l'ont fait d'autres organisations d'extrême gauche, les raisons prétendument nationales que les directions nationalistes russes ou ukrainiennes avançaient pour justifier leur politique. Nous n'avons pas fait chorus avec les médias qui réclamaient des armes pour que l'Ukraine se défende en refusant, comme le faisaient les groupes en question qui ont entonné cette litanie des armes pour l'Ukraine, en refusant de voir qui fournirait ces armes, les grandes puissances impérialistes, et à qui, aux généraux du régime de Zelensky, qui n'a rien à envier à celui de Poutine pour ce qui est de la corruption, pour ce qui est de l'exploitation des ouvriers et pour ce qui est aussi de l'oppression des minorités nationales, comme le camarade à côté de moi y a fait allusion tout à l'heure. Ce qui rend d'ailleurs encore plus pitoyable que certains à l'extrême gauche s'alignent derrière ce régime en invoquant le droit des nations à disposer d'elles-mêmes, que le régime ukrainien bafoue sur son propre territoire. Alors, le fait que le régime de Poutine le fasse aussi n'y change rien. Comme on dit, un chien mouillé n'en sèche pas un autre. Mais des droits des nations à disposer d'elles-mêmes, que l'OTAN serait censée défendre en Ukraine, alors qu'elle n'a cessé de les fouler aux pieds et de les écraser, j'ai envie de dire, aux quatre coins de la planète et depuis au moins le temps qu'elle existe. Voilà. Et puis, indépendamment de cela, et je vous ai dit tout à l'heure, le parti, c'est, ça doit être la mémoire de la classe ouvrière, même si on est bien petit, on est des petites organisations, et notre influence sur la classe ouvrière est limitée, notre audience. Il y a un camarade qui a eu la bonne idée de me transmettre une lettre que Engels avait envoyée en 1892 à Bernstein, du temps où il était encore un socialiste allemand, qui concernait les guerres dans les Balkans et la question de l'Alsace. Voici ce que disait Engels. Et vous allez voir que Engels ne mettait pas sur le devant de la scène la question du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, mais ce qui lui importait et ce qui doit nous importer avant tout, ce sont les intérêts des travailleurs dans la lutte de classe. Alors voici ce que disait Engels. Nous avons à collaborer à la libération du prolétariat européen occidental et nous devons subordonner cet objectif à tous les autres. Et si intéressant que soient les États balkaniques, aussitôt que leur effort de libération entre en conflit avec les intérêts du prolétariat, eh bien que d'autres s'en chargent. Les Alsaciens aussi sont opprimés, mais si à la veille d'une révolution mobilisatrice en vue, ils provoquent une guerre entre la France et l'Allemagne, s'ils excitent à nouveau l'ardeur de ces deux peuples et retardent ainsi l'heure de la révolution, je dirais, c'est toujours Engels qui parle, halte là. Vous pouvez bien avoir autant de patience que le prolétariat européen. Quand celui-ci se libérera, vous serez libre également. Jusque-là, nous ne tolérerons pas que vous dérangiez les projets du prolétariat en lutte. Ça devrait faire réfléchir, je pense, s'ils étaient aussi soucieux de se référer à ce que nous ont transmis plus d'un siècle et demi d'organisation marxiste dans la classe ouvrière, ça devrait faire réfléchir un certain nombre de camarades qui vous sortent à tous les coins de rue le droit du peuple ukrainien qui serait défendu par l'OTAN, hein, et qui devrait primer sur d'autres considérations. Alors, un mot encore à propos de ceux qui, l'extrême gauche, croyaient juste de réclamer des armes pour l'Ukraine. D'abord, on est un peu surpris, mais ils n'en parlent plus. Enfin, en tout cas, plus trop. Mais sans dire qu'ils s'étaient fourvoyés. Parce que ça paraît tellement évident que l'Ukraine, elle croule sous les armes et sous les armes de l'OTAN. Et ça ne date pas d'hier. Angela Merkel l'a encore réclamé, l'a revendiqué il y a 10 ans d'avoir berné avec les pseudo-discussions pacifiques des accords de Minsk, d'avoir berné Poutine le temps que l'OTAN s'arme et arme l'Ukraine pour ensuite pouvoir affronter la Russie. Alors, là aussi, quitte à avoir des bonnes références, je voudrais citer Trotsky et ce qu'il a dit à différentes occasions à propos des questions d'armement. Il en a parlé à la fin des années 30, quand les pays d'Europe de l'Ouest refusaient d'armer un régime espagnol qui était victime de l'agression allemande et hitlérienne. Il disait qu'il ne pouvait pas les armer. Trotsky a parlé de ça aussi à propos du bilan de la révolution russe. Il a expliqué que lors de la guerre civile, l'armée rouge, elle avait à faire face aux armées blanches, armées par la bourgeoisie mondiale, et à 14 armées des principales puissances impérialistes, dont la France, les États-Unis, l'Allemagne, l'Angleterre, le Japon. J'en passe et j'ai envie de dire des meilleurs. En fait, ce seraient des pires. Et pourtant, l'armée rouge, qui était créée à partir de rien, elle avait gagné. Comment cela avait-il été possible? Elle avait été capable de gagner sans jamais avoir reçu d'armes de quiconque, et elle n'a même pas cherché à en demander d'ailleurs. Trotsky, il explique, eh bien oui, on avait un avantage énorme, c'est qu'on était armé d'un programme révolutionnaire de transformation sociale qui a été capable de gagner les masses pauvres des deux côtés des lignes. Et c'est ça qui a été décisif. C'est pas on ne sait trop quelle revendication de l'OTAN armer l'Ukraine pour qu'elle se sauve. C'est des excusez-moi, j'allais dire une grossièreté. C'est lamentable. Alors, bien sûr. C'est d'ailleurs une recette miraculeuse qui a sauvé la Révolution française après 1789, quand elle a eu affaire à la coalition des armées, des princes et des rois de toute l'Europe. Les paysans, les artisans allemands qui voyaient arriver les soldats français, eh ben, ils les voyaient comme leurs frères, qui leur promettaient un changement de régime, l'abolition du régime féodal. Et ça a contribué à la victoire des armées de la Révolution française. Alors, bien sûr, ce serait stupide de croire que d'avoir un programme révolutionnaire suffit à assurer la victoire. Mais ce serait criminel, en tous les cas, quand on est des révolutionnaires, qu'on veut en être, qu'on veut défendre les intérêts du prolétariat à l'échelle mondiale, d'oublier que les questions, les problèmes, on doit se les poser sur le terrain de la lutte de classe, que ce soit en temps de paix, bien que cette notion soit très relative, ou en temps de guerre. Et c'est ce qu'ont toujours fait Lénine, Marx, Engels, Rosa Luxembourg et Trotsky. Et c'est malheureusement ce qu'oublient un certain nombre de camarades aujourd'hui. Alors, oui, les guerres, et ça fait partie aussi de ce qu'il faut rappeler dans notre propagande quotidienne, elles font partie, elles sont du système capitaliste. Elles lui sont inhérentes. Et les guerres mondiales sont inhérentes au système capitaliste parvenu à l'étape impérialisme. Alors, certains à l'extrême-gauche nous reprochent d'en exagérer le risque, voire de nous comporter en Cassandre, invoquant un avenir des plus sombres. J'ai envie de dire, c'est assez stupide, car nous nous bornons à entendre ce qui se dit autour de nous. Quand des travailleurs, des jeunes, disent craindre une nouvelle guerre, ben ils énoncent un fait d'évidence. Depuis un an, la perspective s'est rapprochée d'un conflit généralisé. Et ce ne sont pas nos généraux, les généraux américains ou anglais ou allemands, qui diront le contraire. Eux qui n'arrêtent pas de dire qu'il faut se préparer à un conflit de grande ampleur, à un conflit généralisé, à un conflit de haute intensité, comme ils disent, parce que parler de guerre mondiale, bon, c'est pas politiquement correct. Mais quand on prend les bombes sur le coin de la gueule, ça fait exactement la même impression. Alors, quand nous disons que de l'Est de l'Europe peut venir une guerre à plus vaste échelle, ou que cette guerre peut être le précurseur d'un conflit à plus vaste échelle, on ne fait pas un pronostic. Est-ce que cette guerre en Ukraine, elle sera le prélude, comme l'avait été pour celle, la Deuxième Guerre mondiale, comme l'avait été l'invasion de l'Éthiopie en 1935 par les troupes de Mussolini, comme l'avait été l'invasion de la Chine par les troupes du Japon un peu plus tard, ou comme l'avait été l'intervention des troupes nazies et des troupes fascistes italiennes contre les républicains espagnols, on ne le sait pas. C'est l'avenir qui le dira. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il faut nous préparer à cette éventualité. Et quand je dis « nous », cela signifie d'abord préparer nos propres militants, nos sympathisants, les travailleurs et les jeunes qu'on a autour de nous. Parce qu'il ne faut pas se payer de mots. La classe ouvrière, malheureusement, pour l'instant, nous n'avons pas vraiment son oreille, ni les uns ni les autres. Quant à prétendre jouer à l'international qui serait capable d'organiser une campagne mondiale anti-guerre, comme on l'entend dire dans certains milieux d'extrême-gauche en France en particulier. Bon, là aussi, c'est se payer de mots. Malheureusement, encore une fois, malheureusement, aucune organisation d'extrême-gauche n'a les moyens, ni surtout l'influence au sein de la classe ouvrière qui lui permettrait de se proclamer international. Alors, on le sait, il y a des internationales bien mieux armées politiquement que ne le sont les petits groupes, et il y en a beaucoup qui se proclament internationales aujourd'hui, bien mieux implantées dans la classe ouvrière, ont quand même sombré devant la guerre. On a rappelé ce qu'il en avait été de la seconde internationale social-démocrate. Quant à l'internationale communiste en 1939, elle était stalinisée depuis si longtemps qu'elle aurait été bien incapable d'apporter des solutions aux travailleurs qui seraient posés des questions sur quoi faire face à la nouvelle guerre impérialiste. Alors, il y a eu aussi, à la même époque, des petits groupes qui se revendiquaient de Trotsky, hein, et qui, eux, se proclamaient internationalistes. Eh bien, on doit constater que la majorité d'entre eux, malheureusement, n'ont pas su maintenir le drapeau de l'internationalisme dans la guerre qui avançait, le drapeau de la révolution et le drapeau des intérêts du prolétariat mondial. Trotsky, il avait tout fait pour éduquer ces groupes, mais ils étaient trop liés à la petite bourgeoisie et à son idéologie chauvine pour défendre une politique internationaliste dans la guerre. Et c'est un cruel rappel, mais c'est avec les mêmes mots de défense d'un peuple opprimé, mots qui nous servent actuellement à propos de l'Ukraine, pour dire qu'il se retrouve derrière l'OTAN, et bien c'est avec les mêmes mots que leurs ancêtres s'alignèrent sur la résistance gaulliste et stalinienne en 1940-1941. Ils disaient alors défendre le blé et les vaches de France et tendre la main aux bourgeois pensants français. Aujourd'hui, leurs amis politiques en Ukraine s'alignent sur le régime de Zelensky qui pense ukrainien. Voilà. Bureaucrates et oligarques compris. Alors, quand une guerre éclate, a fortiori une guerre qui est mondiale, eh bien les pressions qui s'exercent, que les classes dominantes et leur relais dans la petite bourgeoisie exercent sur les révolutionnaires, elles sont, et sur la classe ouvrière, elles sont énormes. Des petits groupes et des militants peuvent d'autant plus vite faire naufrage qu'ils ne sont pas préparés à la tempête, qu'ils n'ont pas ou qu'ils n'ont plus de boussole de lutte de classe pour s'orienter. En 1914, bon, on l'a dit, le seul parti finalement qui est tenu bon dans la tempête, ça avait été le parti bolchevique face à la déferlante nationaliste, car il avait été trempé, dans des années de lutte clandestine. Il avait été trompé à une révolution ouvrière de grande ampleur et d'une répression qui n'avait pas réussi à le briser. C'est aussi que politiquement, Lénine et à côté de lui d'autres révolutionnaires comme Trotsky avaient tenu bon en affirmant dès le début de la guerre impérialiste qu'il s'agissait de la transformer en guerre civile. Et en disant leur certitude, ce qu'il ne faut jamais oublier, surtout aujourd'hui, que l'avenir appartenait à la classe ouvrière et à la révolution mondiale. Alors il ne faisait aucun pronostic non plus. Il fixait un cap pour l'action, pour les militants et pour les masses. Mais pour que cela puisse se concrétiser, il fallait encore qu'il y ait des militants qui soient prêts à militer sur ce terrain-là, des partis qui soient prêts à défendre ce programme, et que des partis, des militants, dont ce programme communiste, révolutionnaire, internationaliste, fasse partie de leur génome, de leur ADN, que ce soit leur chromosome, que ce ne soit pas simplement des mots qu'on peut se jeter à la figure comme ça. Et donc, des camarades, des militants qui avaient été formés pendant des années à cette politique-là, à cette politique de classe. Alors, voilà pourquoi nous avons tenu, dès le début de la guerre, à affirmer où se trouvaient les intérêts du prolétariat dans cette guerre. Nous l'avons fait dans notre journal, dans notre mensuel, dans nos réunions publiques, dans notre presse d'entreprise, qui touche chaque semaine des centaines de milliers de travailleurs. Alors cela reste modeste, hein, mais c'est d'autant plus indispensable que personne ne l'aurait fait à notre place. Et certainement pas ceux qui, à l'extrême gauche, préférant suivre les vents dominants en invoquant la défense de l'Ukraine agressée, adoptent une position qui finalement ne gêne pas trop, même pas du tout, nos gouvernants. Alors quant au groupe qui, par crainte de ne pas de heurter certains secteurs de la petite bourgeoisie ou de la jeunesse scolarisée, veulent éviter de prendre position sur la guerre, au final, eh bien, ils désertent le terrain de la lutte de classe. Il y a aussi d'autres courants, ou même des fois les mêmes d'ailleurs, qui renvoient dos à dos maintenant les camps qui s'affrontent et qui dénoncent le militarisme qui appelle à la paix. Mais ce qui est impressionnant, c'est que leur propagande reste abstraite. Elle reste abstraite dans quel sens ? Eh bien, quand ils appellent à lutter pour la paix, à créer des mouvements anti-guerre, ils ne disent pas qui pourrait vraiment œuvrer à la paix. Quelle force sociale ? La classe ouvrière. Et là aussi, au risque de me répéter et de redire ce que disait Lénine du parti qui est la mémoire de la classe ouvrière, oui, on le sait, la seule fois où une guerre a été arrêtée, ça a été par la révolution de 1917, la révolution ouvrière, qui a obligé finalement les belligérants à cesser le feu sur le front de l'Est et qui a ensuite soulevé un tel enthousiasme sur le front Ouest que ça a forcé les belligérants allemands et français, eux aussi, à cesser la guerre. Alors c'est ça qu'il faut rappeler. Bon, nous sommes bornés tous les trois à rappeler quelques points essentiels. On pourra en discuter dans le débat à propos des guerres. Hein, mais en cherchant à montrer que vouloir œuvrer contre les guerres, eh ben, la seule logique, c'est d'œuvrer pour la révolution sociale. Et pour des révolutions où ce ne seront pas, comme après la Seconde Guerre mondiale, des mouvements sociaux certes radicaux, mais hostiles à la classe ouvrière, qui prendront le devant des insurrections, comme avait pu le faire le courant maoïste en Chine, ou Ho Chi Minh au Vietnam, ou un peu plus tard Ben Bella en Algérie, ou Castro à Cuba. Hein. Nous voulons que s'il y a une chance que dans la guerre qui arrive, la classe ouvrière puisse intervenir, eh bien, il faut qu'elle puisse intervenir jusqu'au bout pour faire comme l'avaient fait les bolcheviks, proposer de renverser le capitalisme à l'échelle mondiale. Parce que c'est ça le but pour lequel nous militons. Encore faut-il qu'il y ait des militants, des partis, des organisations qui aient cette perspective et celle-là seulement comme programme et qui s'y tiennent. Alors, certes, ceux qui défendront ce programme, cette politique, ils seront peu nombreux. Mais combien étaient-ils en 1915 lors de la conférence des socialistes internationalistes à Zimmerwald? La camarade l'a rappelé. Bon, ils étaient une quinzaine. Et parmi cette quinzaine de délégués, Lénine, il devait se sentir bien seul. Lui qui disait, il ne s'agit pas simplement de renouer des relations internationales contre ceux qui ont failli. Il s'agit d'œuvrer pour transformer la guerre impérialiste en guerre civile, pour renverser la bourgeoisie. Il devait se sentir bien seul, mais pourtant, c'est lui qui avait raison. Parce que quelques mois plus tard, eh bien, c'est ce qui s'est passé. Ils étaient des millions derrière le parti bolchevique. Et encore un petit peu plus tard, des dizaines de millions un peu partout à chercher à soulever, à ébranler le monde, comme disait John Reed, pour faire comme les Russes, pour faire comme les prolétaires de Russie. Alors, eh bien oui, hein, il faut que dans la situation qui est celle d'aujourd'hui, où on voit se profiler le risque d'une troisième guerre mondiale, il y a des militants, des partis qui ne dévient pas de cette perspective. Et après tout, bah oui, on sait, parce que c'est l'histoire qui nous l'a appris, hein, que de là pourra naître la possibilité d'ouvrir un avenir socialiste, débarrassé de l'exploitation capitaliste, non seulement dans un pays, comme c'était passé en Russie, mais à l'échelle mondiale, comme le voulaient les bolcheviks. Voilà, c'est ce pourquoi nous devons et voulons militer.